La résurrection de Jésus. Après qu'il soit mort, on a mis Jésus dans un tombeau. 14 fois dans le temps où Jésus a prêché, il avait annoncé sa passion et sa mort, mais aussi qu'il ressusciterait le troisième jour. Il présentait d'avance cette résurrection comme le signe évident et définitif auquel non seulement les apôtres, mais tous nous pourrions reconnaître qu'il est vraiment Jésus, fils de Dieu, l'égal de son Père. Les ennemis du Sauveur connaissaient si bien cette prophétie et en comprenaient tellement l'importance que leur premier soin, aussitôt que Jésus a été enlevé de la croix et déposé dans son tombeau, fut d'y mettre des gardes et de fermer les portes du tombeau. Par cette méfiance des vues, des apôtres, par ces précautions excessives, ils rendirent eux-mêmes plus certaine la résurrection de Jésus, dont tous les gardes du tombeau sont des témoins. Valentine dit à sa grand-mère: Comment? C'est devant eux tous que Jésus est sorti vivant du tombeau? Sa grand-mère lui répondit: Oui, devant tous, à leur grande frayeur, comme je vais vous le raconter tout à l'heure. Jean et Pierre avaient accompagné Marie au cénacle, aussitôt après que Jésus fut déposé dans le tombeau, et ils pleuraient et priaient avec elle. Marie-Thérèse demanda: Qu'est-ce qu'on appelle le cénacle? Sa grand-mère lui dit: Le cénacle, c'est la salle où Jésus avait mangé le jeudi soir avec ses disciples et où il a institué l'Eucharistie. Jean avoue lui-même dans son évangile qu'ils avaient tous oublié la prophétie de Jésus touchant sa résurrection, excepté la Vierge Marie. Ils avaient tous perdu la foi en la divinité de Jésus. Ils étaient comme hors d'eux-mêmes et ne savaient plus que croire. La Vierge Marie seule connaissait ce qui devait arriver. Mais alors, comme pendant la vie de son fils, elle conservait toutes les choses dans son cœur. Les autres apôtres s'étaient dispersés depuis le jeudi soir, peu après l'arrestation de Jésus. Ils avaient passé le vendredi et le samedi dans l'abattement, dans le désespoir. Et Thomas était saisi de panique. Il s'était même enfui loin de Jérusalem. Les apôtres sont réduits donc au nombre de 10 à cause de la trahison de Judas et la fuite de Thomas. Et ils s'enferment dans le cénacle. Leur esprit était tout bouleversé. Et ils n'avaient qu'un seul sentiment, ils avaient peur des Juifs. Depuis le vendredi soir, les gardes s'étaient succédés près du tombeau. Ils étaient plusieurs, ensemble, pour mieux le garder. Les saintes femmes, en rentrant à Jérusalem, s'étaient hâtées d'acheter 100 livres de parfum pour achever le lendemain de la Pâque, l'embaumement du corps de Jésus. N'ayant pu sortir le jour du sabbat, elles ignoraient comme les apôtres que les princes des prêtres avaient envoyé des soldats pour veiller près du sépulcre. Au moment où le jour commençait à luire, le tombeau fut ébranlé d'un coup. Un ange brilla comme un éclair au milieu des gardes, et dans leur effroi, ces gardes tombèrent à la renverse. La porte scellée du tombeau se brisa et fut lancée au loin. Le Fils de Dieu était ressuscité. Il venait d'accomplir la prédiction qu'il avait faite. Je quitte ma vie pour la reprendre. Personne ne me la ravit, c'est par ma volonté propre que je l'abandonne. J'ai le pouvoir de la quitter et j'ai le pouvoir de la reprendre. La mort était vaincue et Jésus venait de reconquérir pour nous tout ce que nous avions perdu par le péché. Jacques demanda: Comment la mort a-t-elle été vaincue? Comment peut-on vaincre la mort? Pour vaincre, il faut combattre la mort d'un homme avec lequel on puisse se battre. Sa grand-mère lui dit: Jésus a vaincu la mort par sa résurrection, c'est-à-dire par le pardon des péchés des hommes. Il a donné à leur âme la possibilité de vivre la vie éternelle, dans un bonheur éternel. La mort n'est pas de corps comme un homme. La mort n'a pas de corps comme un homme. Mais elle est un mal terrible qui existe bien réellement. Lorsque les gardes furent revenus de leur terreur, ils s'enfuirent de la ville et allait raconter à Caïphe et au prince des prêtres ce qui venait d'arriver. Ceux-ci, persistant dans leur mauvaise foi, dans leur haine et leur manque de foi, s'endurcirent dans le crime en donnant aux soldats une somme d'argent considérable pour qu'ils ne parlent pas de ce qu'ils avaient vu et qu'ils répandent le bruit que les disciples avaient volé le corps. Jeanne demanda: « Et est-ce qu'on les a crus? » Sa grand-mère lui dit: « Personne ne pouvait y croire, car c'était trop évident. D'abord, que les gardes n'avaient pas pu tous dormir à la fois, c'est évident. Et comment ont-ils pu dormir? Par le bruit causé par le bruit de la pierre du tombeau et la chute énorme de cette pierre. Tout le monde devait être éveillé. Ensuite, personne n'a pu croire que les disciples étaient timides, qu'ils s'étaient enfuis au premier danger, eux qui s'étaient enfuis au premier danger, eux qui n'avaient même pas tenté de défendre Jésus. On ne pouvait pas croire qu'il fût devenu intrépide et audacieux pour combattre des hommes armés qui gardaient le sépulcre. Dans quel but auraient-ils risqué leur vie? Pour retirer d'un sépulcre, du tombeau, le cadavre d'un homme qui les aurait trompés en leur faisant croire qu'il était Dieu et qu'il ressusciterait? Oh non! Les disciples, si les gardes s'étaient réellement endormis, qu'ils s'étaient laissés jouer par les disciples dont ils se méfiaient, les princes aurait pu payer encore plus pour faire comparaître en public les disciples. Personne à Jérusalem ne crut les paroles des soldats et des prêtres. Le bruit de la résurrection de Jésus se répandit partout, et ce fut là ce qui prépara des milliers de conversions qui devaient suivre les premières homélies de Saint Pierre et des apôtres.